أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
La traduction des versets que je viens de réciter est comme suit. Le premier verset est de la sourate Al-Imran. Il est dit « Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoint la vertu et interdit le mal, et ce sont ceux-là qui prospéreront. » La traduction du deuxième verset qui est de la sourate At-Tawbah est comme suit. Il n'est pas possible aux croyants de partir de l'avant tous à la fois. Pourquoi donc un groupe de chaque section d'entre eux ne partirait-il pas de l'avant afin qu'ils puissent obtenir une meilleure compréhension de la religion et afin qu'ils puissent avertir leur peuple quand ils retournent parmi eux pour qu'ils se prémunissent contre le mal? Dans ces versets, Dieu a évoqué ceux qui ont dédié leur vie pour la foi, des personnes qui encouragent le bien et qui interdisent le mal, des personnes qui consacrent leur vie à prêcher le message de l'islam. Par la grâce d'Allah, au cours de la vie du Messie promis à l'Islam, il y a eu des gens qui ont dédié leur vie pour la cause de l'Islam. Cela s'est fait d'une façon ou d'une autre. Et au cours du deuxième califat, ce système a été affiné afin que ceux qui désirent dédier leur vie puissent le faire formellement en remplissant un formulaire. Et pour leur éducation religieuse, la Jamia Ahmadiyya a été mieux organisée. Et on a aussi envoyé des missionnaires hors du sous-continent indien, des missionnaires qui ont joué un rôle important dans la prédication du message de l'islam. Et par la grâce de Dieu, ces personnes se sont distinguées dans les domaines du tablir, de la prédication et de la tarbiya. Et par la grâce d'Allah, jusqu'à présent, ce travail perdure. Et les missionnaires se consacrent à ces tâches dans différents pays. Hormis ceux de l'Inde et du Pakistan, il y a maintenant des missionnaires de différentes origines. Il y a beaucoup de missionnaires ou de Mubalir ou de Mualim d'origine africaine. Il y a aussi un grand nombre d'entre eux en Indonésie. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes puissent s'acquitter de leurs devoirs en toute fidélité. Dans le plan de Waqfi Zindagi, c'est-à-dire de ces personnes qui ont dédié leur vie, il n'y a pas uniquement des missionnaires, il y a aussi des médecins, des enseignants et ou d'autres personnes qui sont en train de présenter leurs services. Les besoins de la communauté sont en train de grandir. Les tâches et les travaux dans le domaine de la prédication sont en train de prendre de l'ampleur. Et dans d'autres domaines aussi, l'on aura besoin de personnes dédiées ou de missionnaires. Ce travail est en train d'augmenter. Le message de l'Ahmadiyya est en train de se répandre. Et l'Ahmadiyya est en train de recouvrir le monde. C'est pour cette raison qu'on aura besoin de plus de Waqfi Zindagi ou de personnes qui se sont dédiées pour cette cause, des personnes qui vont accomplir ces tâches dans le domaine du tablir, de la prédication ou de la tarbiya. À la lumière de ces versets, l'on constate que Dieu a déclaré que tous les membres de la communauté ne pourront pas se consacrer entièrement et tout le temps aux tâches qui concernent la prédication ou la réforme spirituelle. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir un groupe de personnes qui s'y consacrent de façon permanente. Et cela en dépit du fait qu'il a été dit ailleurs que tous les membres de la Ummah doivent enjoindre le bien et interdire le mal et qu'ils doivent aussi prêcher le message de l'islam. Mais on doit aussi faire tourner le monde. Et ceux qui vont se consacrer à ce bas monde ne pourront pas accorder tout leur temps pour cette tâche. De surcroît, la mentalité de tout un chacun n'est pas propice à l'accomplissement de ces travaux qui concernent la tarbiya ou le tablir. Et tous les membres de la communauté n'ont pas la connaissance que possède un missionnaire. Et on ne peut pas non plus donner une formation spécialisée à tout le monde et se consacrer à l'éducation spécialisée de tout le monde. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir un groupe de ceux qui se consacrent à la foi et à l'acquisition des connaissances qui concernent les commandements et les interdictions émis par Dieu, que ces personnes puissent étudier la sagesse derrière cela et répandre cela. Par la grâce d'Allah, il y a au sein de la communauté de ces personnes qui ont fait des études poussées dans d'autres domaines et qui sont aussi intéressées par les faits religieux.
کافی درک رکھتے ہیں, لیکن
Mais la plupart de ces personnes sont aussi très occupées et c'est pour cette raison qu'elles ne peuvent pas consacrer leur temps de façon permanente à la foi. En tout cas, Dieu déclare qu'il doit y avoir un groupe de personnes qui aient dédié leur vie pour la cause de la foi. L'islam est une religion universelle. Il doit y avoir parmi ces gens des personnes de différentes origines, des personnes qui appartiennent à chaque couche de la société. Et ces personnes vont devoir se consacrer à la foi. Parmi tous les peuples, il doit y avoir de ces personnes qui étudient la foi et qui l'enseignent aux autres. Il y a dans le monde des gens de différentes origines, de différentes mentalités, et on doit adapter le message selon les affinités de la personne concernée. Ainsi, l'on pourra prêcher le message d'une très bonne façon et l'on pourra aussi faire la tarbiya ou la réforme spirituelle d'une très bonne façon. Voilà donc les directives de la part de Dieu, à savoir qu'il doit y avoir un groupe de croyants qui vont accomplir ces tâches et ces personnes doivent appartenir à différents peuples, à différentes origines, afin que l'on puisse faciliter l'accomplissement de cette tâche. Au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il y a le système de waqf, par l'entremise duquel les gens se dédient pour la cause de la foi, et il y a maintenant des gens de différentes origines qui participent dans ce plan. Les besoins de la communauté sont en train de grandir et l'on va devoir aussi augmenter le nombre de personnes dédiées. Et ce besoin va grandir à l'avenir. Ces besoins vont prendre de l'ampleur à l'avenir. Le quatrième calife, Rahmatullah alayhi, a ressenti ce besoin et après avoir reçu la direction de la part de Dieu, il a lancé le programme Waqf-e-Nau et il a posé les bases de ce programme sur la taqwa et il a poussé les parents à dédier leurs enfants avant leur naissance et de ne pas attendre que ces enfants soient grands pour qu'ils le font de leur propre chef. Ils voulaient que les parents ressentent cette douleur pour la foi, qu'ils marchent sur les voies de la taqwa et qu'ils dédient leurs enfants avant même leur naissance. Et qu'ils annoncent à l'instar de la mère de Marie, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muhararan fa taqabbal minni. Ô mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein et il est libéré de toute entrave séculière. C'est-à-dire que je présente cet enfant pour la cause de la foi et je le libère de toute chose mondaine. Accepte cet enfant de ma part. Quand les mères vont présenter leurs enfants à la Jamaat, après avoir prié en ce sens, lorsqu'elles vont présenter ces enfants au calife, elles auront aussi de très grandes responsabilités. Elles vont devoir faire l'éducation de ces enfants afin qu'ils puissent vivre selon les principes d'une personne dédiée pour la cause de Dieu. Au cours de la grossesse, la mère doit prier pour cet enfant, pour qu'Allah fasse de lui un serviteur de la foi, pour qu'Allah le protège des impuretés de la vie d'ici-bas, que cet enfant soit intéressé par la foi et qu'il ne se tourne pas vers ce bas monde. Et après sa naissance, elle doit faire l'éducation de cet enfant afin que celui-ci comprenne que j'ai dédié ma vie pour la cause de la foi, que je suis un Waqfi Zindagi, que j'ai dédié ma vie et qu'au lieu de tomber dans les filets de ce bas monde, je dois consacrer ma vie au service de la religion. Lorsqu'on va faire l'éducation de l'enfant de cette sorte, lorsque celui-ci atteindra l'âge de l'adolescence, il va se présenter de son propre chef. Il va se présenter en toute sincérité au service de la foi. Les parents doivent se souvenir du fait qu'ils ont là de grandes responsabilités. Ils ont pour tâche de préparer l'enfant pour qu'il se dédie. Ils doivent se consacrer à son éducation. Ils doivent agir ainsi afin qu'il puisse présenter cette belle plante qui portera des fruits à la Jamaat et au calife au service de la religion. D'aucuns pensent que nos enfants sont des Waqfenaw et c'est la Jamaat qui va devoir s'occuper d'eux dès leur naissance. Cela est complètement erroné. La Jamaat va certainement donner des directives concernant leur éducation et leur tarbiyah. La Jamaat doit le faire et pour cela, il y a le département Waqfenaw Arabwa au Pakistan et à Qadian. Il y a le département Waqfenaw sous le département de l'éducation et ici au centre, au Royaume-Uni. Le département Waqfenaw est en train de travailler sous les directives du calife et dans les différentes Jamaat, il y a les secrétaires Waqfenaw qui ont pour responsabilité de guider ses enfants, de leur donner une éducation et de les conseiller afin qu'ils soient des membres actifs de la communauté. Et ces secrétaires Waqfenaw doivent aussi jouer un rôle actif. Mais en dépit de tout cela, les parents ont une très grande responsabilité. En raison des besoins grandissants de la communauté, on a mis en place le système Waqfenaw. Et ce plan est très important. C'est un plan qui va subvenir aux nécessités et aux besoins de la communauté à l'avenir. Et à part des missionnaires, on aura besoin des gens dédiés qui ont été formés dans différents domaines. Les parents et le département Waqfenaw doivent comprendre leurs responsabilités et jouer un rôle actif dans ce domaine. On a constaté que dans la plupart des cas, les secrétaires Waqfenaw ne sont pas aussi actifs qu'ils doivent l'être. Soyez actifs afin que lorsque ces enfants vont sortir sur le terrain, ils pourront jouer un rôle important dans la protection des peuples contre la destruction. Que ces enfants soient de ceux qui auront le salut et qu'ils soient aussi la cause du salut de l'humanité. Les parents ont pour tâche de faire l'éducation morale de leur enfant. La Jamaat ne pourra permettre qu'un enfant ne s'égare. Ces enfants sont des amanas, des charges confiées à la Jamaat et au peuple. Mais dès leur enfance, les parents de ces enfants dédiés doivent leur faire comprendre que nous vous avons dédié pour la cause de Dieu et qu'il ne suffit pas de porter l'étiquette Waqfenaw. On doit nous faire comprendre que tu dois être différent des autres dans ton éducation, dans ton comportement, dans la façon dont tu parles. Tu dois être différent des autres lorsque tu rencontres les autres. Et ces habitudes doivent se renforcer à l'avenir. Et aucun doigt accusateur ne doit se lever contre toi. Il y a aussi le programme Wakfenao qui a été préparé par le centre. Les parents et les responsables doivent utiliser ce programme pour la formation de ces enfants afin que ces enfants aient l'habitude de méditer profondément sur la foi dès leur enfance et afin qu'ils puissent aussi affiner leurs qualités. C'est ainsi que l'on pourra relever les défis de l'avenir. C'est ainsi qu'on pourra faire comprendre au monde l'importance de la foi. Et ainsi, les enfants eux-mêmes doivent avoir le désir d'apprendre les choses de la foi. C'est ainsi qu'ils pourront comprendre nombre de choses concernant la foi. Apprendre chez eux de la foi par contrainte ou se dédier par contrainte n'auront pas d'effet. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que l'on a besoin de ces personnes qui vont méditer sur la foi, méditer sur cette foi apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. De méditer sur la religion apporté par Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces waqfe zindagi, ces personnes qui veulent étudier la foi et qui veulent se dédier pour la cause de la religion, ou ces enfants waqfe nao qui sont en train d'étudier dans les différents jamias de par le monde, doivent comprendre qu'ils doivent étudier la foi apportée par le saint prophète. À propos de cette foi, Hadrat Aisha radhiyallahu anha rapporte que les qualités du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam étaient le saint Coran. Kana khulquhul Quran. Sa foi, c'était de comprendre chaque pilier de la foi et de traduire chaque pilier de la foi dans la pratique et de répandre cela parmi les autres. Il incombe à tout croyant de suivre son modèle, mais quant à ceux qui clament qu'ils méditent profondément sur la foi, à ceux qui clament qu'ils étudient la foi et qu'ils la pratiquent et qu'ils le font plus que les autres croyants et qu'ils appellent les autres vers le bien, de ces personnes qu'on attend qu'elles feront plus pour enjoindre le bien et interdire le mal, il est très important pour ces personnes de suivre l'exemple du saint prophète. On doit donc faire une analyse de conscience. Toutes les personnes dédiées pour la cause de la foi doivent faire cette analyse de conscience. Si nous disons que le Saint-Coran est le livre parfait, méditer sur le Saint-Coran signifie que l'on doit vivre selon ses préceptes, afin que l'on puisse s'acquitter de ses responsabilités, afin d'être un exemple et afin de pouvoir rappeler les gens vertueux, afin de pouvoir s'acquitter de son mieux, de ses responsabilités envers le tablir et la tarbiya. Je vais vous présenter les espoirs du Messie premier, l'Islam. Quelles sont les qualités de ces personnes qui vont se dédier pour la cause de la foi? Il déclare qu'on a besoin de telles personnes qui ne se contenteront pas de parler, mais qui vont aussi traduire dans la pratique leur discours. Clamer que l'on est un érudit ne sert à rien. Je m'adresse ici à tous les missionnaires. Je m'adresse aussi à tous ces étudiants qui sont en train d'étudier dans la Jamia Ahmadiyya. Et je leur demande d'avoir tout le temps en tête ces directives du Messie promis à l'Islam et qu'ils doivent aussi tout le temps faire leur analyse de conscience et d'analyser à quel point leurs discours et leurs actions sont en accord. Certains peuvent prêcher que l'on ne doit pas négliger la prière, que c'est un péché de négliger la prière, mais ils peuvent aussi être négligents eux-mêmes dans la prière. Voilà donc des rappels pour les étudiants de la Jamia. Il y a certains qui sont sur le terrain et qui sont négligents en ce sens. Ils doivent se corriger. Il y a d'autres qui disent que vous devez éviter les mauvaises traditions, surtout concernant le mariage, qu'ils doivent éviter les innovations et que le calife, la Jamaat, n'en donne pas la permission. La foi ne donne pas la permission de suivre ces traditions. Le Messie promis, Allah et son prophète ont répudié ces traditions. Mais ces mêmes personnes qui font ces discours oublient cela lors du mariage de leurs enfants ou de leurs proches. Ou ils participent dans ces mariages où on est en train de suivre ces mauvaises traditions. Ils ne condamnent pas ces traditions et ils ne quittent pas de telles réunions. Tout cela est mauvais. L'on étudie la foi pour être un érudit pratiquant. Le Messie promis à l'Islam a aussi déclaré que les waqfi zindagi, ces personnes qui ont dédié leur vie pour la cause de la foi, doivent éviter toute forme d'orgueil et d'arrogance. Toute personne dédiée ou tous ceux qui sont en train d'étudier à la Jamia ou ceux qui sont en train de travailler ailleurs doivent faire leur analyse de conscience. Lorsque nous aurons cette habitude de faire cette analyse de conscience, c'est là que l'on pourra se réformer. Cette année-ci va sortir la première promotion de missionnaires de la Jamia Ahmadiyya du Canada. Et Inch'Allah, il y aura des missionnaires de parmi les Wakfenaw. Il se peut que au Pakistan, il y a déjà des missionnaires qui faisaient partie du plan Wakfenaw. Que l'on se souvienne qu'un missionnaire doit faire preuve d'humilité et de modestie. Mais il est aussi important de faire preuve de dignité. Le Messie premier, alayhi salam, a ensuite déclaré que ces personnes dédiées doivent lire nos livres souvent et leur connaissance doit atteindre la perfection. Le Messie premier, alayhi salam, n'a pas dit que l'on doit faire des efforts pour que cette connaissance soit parfaite. Il a dit que l'on doit étudier ses livres souvent afin que sa connaissance soit parfaite. Il est donc primordial d'étudier les livres du Messie promis lorsqu'on est en train de suivre sa formation à la Jamia et même lorsqu'on est sur le terrain. Car c'est ainsi que l'on sera guidé vers les enseignements véritables de l'Islam. Ensuite, il a déclaré qu'un missionnaire doit se contenter de son sort. À propos de la satisfaction ou du contentement de la personne dédiée, il a déclaré que l'on ne confiera pas la tâche de la prédication à celui qui n'aura pas atteint le niveau de satisfaction requis.
Et
quel est son désir à ce sujet. Il a déclaré que l'on doit être au niveau des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui étaient si satisfaites de leur sort que dans certains cas, elles se contentaient des feuilles d'arbre comme nourriture. Dieu a exaucé et les prières et les désirs du Messie premier alayhi salam et lui a accordé de ses missionnaires à qui l'on doit envier les qualités de satisfaction. Aujourd'hui, les missionnaires vivent dans l'aisance. Il fut un temps où il n'y avait pas toutes ces facilités et toutes ces aménités. La situation financière de la communauté est bonne et la communauté fait de son mieux pour satisfaire tous les besoins de ses missionnaires. C'est vrai que dans certains endroits, certaines personnes font face à des difficultés, mais lorsqu'on s'est présenté pour la cause de la foi, lorsqu'on s'est sacrifié pour cette cause, toutes ces difficultés n'ont aucune importance. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, hormis Rabwa et Qadia, il y a maintenant la Jamia Ahmadiyya au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne. Et cette année-ci, la première promotion de missionnaires va sortir de la Jamia du Canada. Ce sont des personnes qui vont sortir sur le terrain pour la première fois, Inch'Allah. En Afrique et en Indonésie, il y a aussi la Jamia Ahmadiyya. Quand les Jamia d'Afrique et d'Indonésie, elles sont là pour former des personnes originaires de ces pays et ces personnes sont postées dans ces mêmes pays. Ce sont des personnes qui se contentent de la situation de leur pays. Mais ceux qui sont en train d'étudier ici en Occident vont sortir un de ces jours et qu'ils comprennent qu'en tant que Waqfi Zindagi, ils vont devoir obtempérer lorsqu'on les enverra dans un pays quelconque. Voilà l'esprit du Waqfi. Et ils ne doivent pas croire qu'ils seront postés uniquement ici en Occident. Et s'ils sont envoyés en Afrique, ils ne doivent pas se soucier du climat rude d'Afrique. Lorsqu'on s'est consacré pour la cause de Dieu, l'on doit être prêt à subir toutes ces difficultés. Comme je l'ai dit auparavant, aujourd'hui les missionnaires ont beaucoup de facilité, mais les premiers missionnaires qui sont sortis sur le terrain, au tout début, ont dû faire face à de grandes difficultés. Je vais citer quelques incidents au cours de leur vie afin que vous ayez un aperçu de leur sacrifice et de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Hazrat Shah Mohammad rapporte un incident concernant sa vie. Il déclare qu'il a travaillé en Indonésie pendant 18 ans sans retourner dans son pays. Il déclare que jamais je n'ai fait des demandes à quiconque. J'ai vécu dans l'indignité. Il recevait un salaire très bas. Il pouvait à peine se contenter d'un ou deux repas. Mais il déclare que pour chacun de mes besoins, j'ai frappé à la porte de mon Seigneur et c'est Dieu qui a subvenu à mes besoins. Il ajoute que j'étais très content de retourner dans mon pays après 18 ans. Il retournait au Pakistan par bateau et il déclare que je possédais un vieux hachkant, c'est-à-dire un vieux veston, et une paire de charwal kameez de complet usé et je ne possédais rien. Il voyageait donc par bateau et il ajoute qu'en cours de route, je me suis dit que je retourne dans mon pays après une si longue absence et je ne possède pas de nouveaux vêtements afin que je puisse me présenter à Rabwa. À l'époque, il accostait à Karachi et voyageait par train jusqu'à Rabwa. Il ajoute que j'étais en train de penser en ce sens quand je me suis dit que je ne devais pas entretenir de telles pensées. Je ne dois pas entretenir de telles pensées, car cela va à l'encontre de l'esprit du waqf, du sacrifice. Il a dit que j'ai imploré le pardon de Dieu. Et après quelques jours, notre navire a accosté à Singapour. J'étais sur le pont du navire lorsque j'ai vu monter une personne qui portait un ballot. Cette personne est partie rencontrer le capitaine et lui a posé des questions. Le capitaine l'a envoyé vers moi. Cette personne est venue me rencontrer, m'a fait l'accolade et m'a dit qu'elle est Ahmadi et couturier de profession. Il a aussi ajouté que j'ai lu dans le journal Al-Fazal que vous allez accoster à Singapour et j'ai eu le désir de vous présenter un cadeau. J'ai vu votre photo et j'avais une estimation de votre taille et j'ai préparé deux complets pour vous, ainsi qu'un ashkan, c'est-à-dire qu'un veston et un turban. Je ne suis qu'un simple couturier, acceptez cela de ma part. Shah Saheb a déclaré qu'en voyant cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, voyez comment mon Seigneur a satisfait mes désirs et qu'il a poussé Al-Ahmadi à me donner cela alors que je ne le connaissais pas, alors qu'il ne me connaissait pas non plus. En prodiguant des conseils aux missionnaires, il déclare que si les missionnaires se prosternent devant le seuil de Dieu et qu'ils ne demandent rien à personne, c'est Allah qui subviendra à leurs besoins de l'invisible. C'est ainsi qu'Allah a traité toutes les personnes qui ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. Par la grâce d'Allah, ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui en font le constat. Il y a ensuite un récit rapporté par le fils de Moulana Ghulam Ahmad Farak. Il déclare que son père, Ghulam Ahmad Farak, a vécu pendant longtemps à l'extérieur et qu'il a été muté à Hyderabad. Et la communauté lui a offert une petite maison là-bas. Cette maison était dans un état déplorable. Et puisque leur père avait vécu longtemps à l'extérieur, ses enfants étaient contents de vivre en sa compagnie. Son fils rapporte qu'en voyant l'état de la maison, un de mes frères cadets a demandé à notre père de faire une demande à la communauté de réparer cette maison ou de faire réparer cette maison. Mais leur père, Moulana Ghulam Farak, ne se contentait que de s'acquitter de ses devoirs et il n'avait aucun désir en ce sens. Avec amour et affection, il a réuni tous ses enfants et avec sagesse et intelligence, il leur a informé concernant la vie de Waqfi Zindagi à propos de son humilité, de sa simplicité et du fait qu'il doit restreindre ses désirs et que Waqfi Zindagi doit éviter de faire des demandes. Voilà les idéaux de la vie d'une personne dédiée. Le père a conseillé ses enfants disant que je veux que vous puissiez me soutenir en ce sens et que vous allez accepter les choses difficiles de la vie et que vous allez plaire à Dieu. Le fils de Moulana Ghulam Ahmad Farak rapporte un autre incident. Son fils était un major de l'armée. Il a déclaré que nous avions le désir d'accueillir notre père chez nous. Nous, ses enfants, nous avions de très bons postes et nous voulions que notre père puisse prendre sa retraite et puisse venir vivre avec nous. Nous avons exprimé ce désir à notre père et il a tout simplement répondu que je vais vous donner la réponse le lendemain. Ses enfants ont dit que nous étions très contents et nous avons cru que le lendemain, il allait nous donner une bonne nouvelle et qu'il va décider de venir vivre avec nous.
Mais
les enfants ont déclaré que notre choix était tout à fait temporaire. Il nous a fait asseoir avec lui et il a déclaré que je suis une personne très humble. Les paroles que vous m'avez dites hier m'ont secoué de l'intérieur. Pour la cause de Dieu, ne faites pas de telles demandes à l'avenir. J'ai prêté serment à Dieu que jusqu'à mon dernier souffle, je vais vivre en tant que Wakfizindagi, en tant qu'une personne dédiée pour la cause de Dieu. J'ai peur de ne pas respecter ce serment suite à vos paroles. Ne me dites pas la même chose à l'avenir. Aussi, priez pour que je puisse tout le temps respecter l'engagement que j'ai pris avec Dieu. Voilà donc ces personnes qui se sont acquittées de leur devoir de personnes dédiées. Le Messie premier, l'Islam, ajoute qu'un Wakfi Zindagi, qu'une personne dédiée pour la cause de Dieu, doit être prête à subir les difficultés du voyage. Elle doit être prête à partir dans les villages pour informer les gens de la venue du Messie promis. Les premiers missionnaires qui sont partis en Afrique et même ceux qui ont travaillé en Inde ou au Pakistan ont subi les aléas du voyage, les difficultés du voyage. Et ils n'avaient pas non plus assez d'argent pour faire un voyage confortable. Et en plus de cela, ils ont dû faire face à l'opposition des autres au cours de leur voyage. Cela s'est passé en Afrique, en Inde et ailleurs. Il y a plusieurs incidents de ce genre à propos du Maulana Nazir Ahmad Ali. Les habitants d'un village les avaient rejetés et ils ont dû passer la nuit à la Belle Étoile à la merci des moustiques qui sont des plus dangereuses en Afrique. La Jamaat est reconnue en Afrique et la Jamaat est en train de faire de grands progrès en raison des sacrifices consentis par ces saintes personnalités. Un de ses compagnons, Maulana Siddiq Amritsari, rapporte ces incidents. Il rapporte qu'il était en voyage en compagnie du Maulana Nazir Ahmad Ali en 1940, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient eu l'intention de visiter un village de commerçants nommé Kasri qui se trouvait à une soixantaine de kilomètres de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Et pour atteindre ce village, ils ont dû traverser une rivière par bateau. Maulana Nazir Ahmad Ali avait déjà visité cet endroit pour prêcher le message de l'islam et suite à ses efforts, l'opposition a pris de l'ampleur. C'était donc sa deuxième visite et la majorité des habitants de ce village sont de la tribu Fulani qui sont fiers de leur appartenance à l'islam et qui se disent être d'origine arabe. Les gens de cette tribu sont partis là-bas et ont lancé une campagne mensongère contre la communauté ahmadiyya. Et les habitants de ce village ont décidé de ne pas accueillir les Maulana Siddiq Amritsari rapporte que nous avions pour objectif de prêcher le message de l'islam et de l'ahmadiyya et d'informer les gens concernant l'islam véritable. Nous étions partis là-bas pour prêcher ce message aux chrétiens et aux non-musulmans et nous voulions aussi dissiper leurs malentendus à propos de l'islam et de l'ahmadiyya. En tout cas, il déclare que nous sommes arrivés par bateau vers le crépuscule. nous avons eu l'intention de rester là-bas quelques jours et d'y organiser une conférence. Descendu du bateau, nous sommes partis voir le chef du village qui recevait une subvention de la part du gouvernement pour s'occuper des invités. On nous a dit tout simplement que le chef est parti à la ferme. Nous ne savions pas si c'était vrai ou pas, mais on nous a dit qu'il n'est pas là. Et les autres personnes se sont détournées de nous par animosité. Même le peu d'habitants de ce village qui avaient de la sympathie à notre égard se sont détournés de nous. Il y avait quelques étudiants musulmans, Ahmadi, d'origine africaine, qui étaient en notre compagnie, mais ces étudiants ont pu se loger ici et là en raison de leur appartenance à cette communauté. Et ces deux missionnaires ont dit que nous sommes partis rencontrer des commerçants libanais. Sidik Amratsari rapporte que nous avons parlé à l'un d'entre eux en arabe. Il a été impressionné par notre conversation. Et il nous a accueillis chez lui. Là-bas, nous lui avons présenté le message de l'Ahmadiyya. Il nous a offert un dîner. Et vers 22h, nous avons quitté sa maison. Il ne nous a pas demandé si nous avions un endroit pour nous loger. Et nous ne lui avons rien dit non plus. Le soir, nous nous sommes mis au bord de la rivière. Et dans toute cette région, il y avait des serpents venimeux et il y avait aussi des attaques de crocodiles. Mais Dieu leur a accordé sa grâce et les a protégés de toute attaque d'animaux. En tout cas, ils ne pouvaient dormir dans cet état. Et ils ont fait des va-et-vient d'un coin du village vers l'autre. Ensuite, déclaré que nous sommes assis sur le sable et nous avons fait des commentaires sur le Saint-Coran. En tout cas, ils ont parlé à propos de la foi. Et au milieu de la nuit, Maulana Nazir Ahmad Ali a fait une longue prière pour qu'Allah guide les gens de ce village afin que l'islam et l'Ahmadiyya puissent progresser. Ensuite, il a commencé à marcher et vers 3 heures du matin, ils sont partis vers la mosquée du village pour faire la prière tahajjud. Il déclare, voyez l'état de la mosquée de ces soi-disant musulmans. Lorsque nous sommes entrés dans la mosquée en pleine obscurité, nous avons entendu des bruits étranges et après quelque temps, un troupeau de chèvres est sorti de la mosquée. Et nous avons nettoyé la mosquée. Et ensuite, nous avons commencé à prier. Et à l'heure de la prière d'Al-Fajr, nous avons fait l'appel à la prière. En entendant l'appel à la prière, les musulmans et les non-musulmans sont venus voir. Et le chef des musulmans est venu et craignait que quelqu'un nous a donné un endroit pour dormir et que nous avons contrôlé leur mosquée. En tout cas, nous avons prié et ils nous ont regardé prier. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, alors que les autres disent que notre adhan et notre prière sont différents. La seule différence est que les Ahmadis croisent les bras et nous qui sommes malikites, nous ne croisons pas les bras. Voilà la seule différence annoncée par les musulmans de ce village. Mais en tout cas, leur animosité n'a pas baissé d'un cran. Mais tout au plus, déclare le rapporteur, ils ne nous ont pas interdit de prier. Et ensuite, nous sommes retournés. Voilà la situation par laquelle ils sont passés. Il déclare que par la grâce d'Allah, l'Ahmadiyya s'est répandue là-bas, dans cette région. C'est un exemple pratique de la façon de méditer sur les choses concernant la religion. Une personne qui a dédié sa vie pour la cause de Dieu doit être prêt à sacrifier ses désirs, doit être prêt à faire face à ses innombrables difficultés. Et comme je l'ai dit, nous voyons de tels exemples aujourd'hui aussi. les nouveaux missionnaires et les anciens et les Wakfenau doivent se souvenir de ces conseils au cours de leur étude ou lorsqu'ils travaillent sur le terrain. Ils doivent être animés de cet esprit et doivent se préparer à travailler ainsi. Voilà les sentiments qu'ils doivent traduire dans la pratique. Il y a devant moi les étudiants de la Jamia. Vous devez penser en ce sens dès à présent, car sans cela, on ne pourra répandre la religion. S'ils n'agissent pas ainsi, ils seront effrayés lorsqu'ils seront sur le terrain. Et certains, malheureusement, ont mis fin à leur serment de personnes dédiées en entendant qu'on va les transférer dans tel ou tel endroit et se sont écartés de leur waqf. Préparez-vous dès maintenant. Et soyez prêts à subir toutes ces difficultés pour la cause de Dieu. Je m'adresse en particulier à ceux qui sont en train d'étudier à la Jamia. Dès à présent, vous devez méditer sur les difficultés qui vont vous attendre. Il y a un nombre important de Wakfenau qui sont en train d'étudier à la Jamia. Ils sont en train d'étudier dans ces différentes Jamiates de par le monde. Ils doivent tout le temps se souvenir du serment de leurs parents et de leur serment et de l'exemple de leurs aînés et des attentes du Messie promis à l'Islam. Et ils doivent faire des efforts constants pour respecter l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. Ils doivent faire preuve de fidélité. Voilà la fidélité dont doit faire preuve tout Wakfe Zindagi. Et sachez aussi qu'un Mobalir, qu'un missionnaire et qu'un Wakfe Zindagi doit avoir un sens de dignité. Faites preuve d'humilité, certes. Soyez modeste, certes, mais vous devez aussi faire preuve de dignité. Vous ne devez pas exprimer vos désirs. Vous ne devez pas exprimer vos demandes, tout comme l'a déclaré la personne que j'ai évoquée, une personne qui a dit que l'on doit présenter ses besoins à Dieu. Moi-même, j'ai passé par des situations difficiles au Ghana et j'ai fait cette expérience que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on doit demander à Dieu. Vous devez faire face à ces situations difficiles. Vous devez supporter ces difficultés, mais vous ne devez jamais vous départir de votre dignité. Je ne m'adresse pas uniquement aux nouveaux venus, mais je m'adresse aussi aux anciens qui doivent respecter ces engagements. Des fois, en voyant les gens de ce bas monde, ils entretiennent eux aussi les mêmes désirs. Qu'ils sachent que tout missionnaire est le représentant du calife aux yeux de la Jamaat, aux yeux des Ahmadis et aux yeux du centre, et qu'ils ne doivent pas faire de telles actions qui puissent ternir cette représentation. Des fois, en raison de leurs épouses ou de leurs enfants, certains mettent de l'avant leurs besoins et leurs nécessités. La communauté fait de son mieux pour subvenir aux besoins de ces Wakfe Zindagi, de ces missionnaires. Il doit en être ainsi. Mais la situation économique est en train de s'empirer dans le monde et l'inflation gagne du terrain dans les pays pauvres. Et on n'arrive pas à faire face à cette inflation. La dignité d'un missionnaire réside dans le fait qu'il ne doit pas mentionner ses difficultés devant quiconque. Et s'il a besoin de pleurer, qu'il pleure devant Dieu, qu'il demande à Dieu uniquement. J'ai évoqué les aînés du passé. Aujourd'hui, il y a de ceux qui font de tels sacrifices, mais il y a aussi d'autres qui sont impatients et qui ne respectent pas leur engagement. Et lorsqu'ils évoquent leurs besoins à tout un chacun, voilà ce qui se passe. Ils font face à plus de difficultés lorsqu'ils expriment leurs désirs. soit qu'ils vont briser leur engagement, soit qu'ils vont s'endetter. Un missionnaire à Wakfe Zindagi doit tout le temps vivre selon ses moyens. Et en ce sens, je demande aussi aux épouses des Wakfe Zindagi de faire naître en leur personne la kana, c'est-à-dire la satisfaction et le contentement, et de ne pas demander des choses que leur époux ne peuvent les offrir et de mettre à l'épreuve leur époux. La personne dédiée et ses missionnaires ont consacré leur vie pour un grand objectif et leurs épouses doivent les soutenir dans cette tâche. Un missionnaire Morabbi doit tout le temps se souvenir de ces paroles du Messie premier l'Islam qui a déclaré. C'est une déclaration qu'il a faite lorsqu'il a fait l'ouverture de la madrasa Ahmadiyya. Il a déclaré que cette madrasa soit un moyen pour propager le message de l'Islam, que les jeunes qui en sortent puissent abandonner les choses de ce bas monde et puissent servir la foi. Qu'ils apprennent les choses de la foi et qu'ils maîtrisent aussi la langue arabe. Qu'ils aient le désir d'apprendre les choses de la foi. Qu'Allah fasse que nos missionnaires puissent avoir ces paroles en tête et puissent les traduire dans la pratique. Il y a certains points administratifs que je veux mentionner à propos du département Wakfe Nau. Il y a un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes filles Wakfe Nau qui ne vont pas partir à la Jamia. Et ce sont des personnes qui vont étudier dans d'autres domaines. La Jamaat a besoin de telles personnes. C'est pour cette raison qu'à chaque étape de leurs études, elles doivent demander conseil au centre en disant « Voilà nos intentions, que devons-nous faire ?» Par la grâce d'Allah, il y a maintenant plus de 14 500 Wakfe Nau, jeunes hommes et jeunes filles qui ont plus de 15 ans. En tout, il y a 40 000 Wakfe Nau. Arrivés à cet âge, ils doivent remplir leur formulaire de Wakfe et de dire s'ils veulent se dédier à l'avenir ou pas. Ils sont arrivés à l'âge de maturité. En toute connaissance de cause, ils doivent prendre la décision s'ils veulent aller de l'avant avec ce serment ou pas. Ce sont leurs parents qui les ont dédiés en premier. Maintenant, c'est aux enfants de décider s'ils vont maintenir leur serment en bas et s'ils vont suivre cette voie, qu'ils mentionnent cela au centre et qu'ils demandent aussi l'avis du centre en disant qu'ils ne vont pas partir à la Jamia et qu'ils veulent étudier tel ou tel sujet et de les guider dans ces domaines. Vous devez nous informer à propos des choses qui vous intéressent et à différents moments on doit donner des directives à ce sujet et les secrétaires Wakfe Nau doivent être actifs dans ce domaine. Si les secrétaires Wakfe Nau sont actifs, ils pourront informer le centre à propos des Wakfe Nau de leur région et le centre pourra les informer concernant les filières qu'ils doivent suivre et quelles sont les études qu'ils doivent suivre. En tout cas, ni les Wakfe Nau ni les parents n'ont le droit de prendre des décisions de leur propre chef. Même si vous prenez ces décisions, vous devez nous informer. Vous devez informer que j'ai pris cette décision et je ne veux plus être Wakfe Nau afin qu'on puisse vous rayer de la liste. Selon les directives, les jeunes de 15 ans doivent remplir le formulaire et il est dit que s'ils décident d'entériner leur Wakfe, ils ne pourront plus faire marche arrière. Mais j'ouvre la voie. Je vous demande de refaire ce serment après avoir complété vos études. Et vous devez en informer les secrétaires Okfenau et ainsi que le centre, informer le centre que vous avez complété vos études et que vous voulez être Okfenau ou pas. De ces Okfenau sont en train d'étudier à la Jamia. C'est-à-dire 90% de ces Okfenau sont en train de faire d'autres études, sont en train d'étudier à l'université, certains ont abandonné leurs études, d'autres sont en train de suivre des formations professionnelles. On doit avoir un rapport à ce sujet, car je ne crois pas que le centre est au courant concernant les 90% de ces enfants Okfenau qui sont en train de faire ces études. Je demande au secrétaire Okfenau de préparer ce rapport. Il y a un programme qui a été mis en place pour les études religieuses de ces enfants Okfenau. Ce programme s'arrêtait à l'âge de 15 ans. Maintenant, on a poussé ce programme pour les jeunes de 19 ans. Il est important de suivre ce programme et de participer à l'examen. On peut étendre ce programme jusqu'à l'âge de 20 ou de 21 ans. Et les secrétaires Okfenau doivent faire en sorte que les jeunes y participent à 100%. Et il est important d'envoyer les résultats au centre. À différents moments, il y a des directives qui sont envoyées du département Okfenau, mais dans la majorité des cas, la majorité des Jamaat ne répondent pas à ces directives. Comme rappel, je vais mentionner quelques points ici. C'est vrai que j'ai mentionné certains de ces faits, mais je vous présente ce point ou ces points de nouveau. Par exemple, pour qu'un enfant soit considéré pour le plan Okfenau, il faut que les parents fassent une demande écrite au calife en ce sens avant la naissance de l'enfant. Dans certains cas, certaines personnes envoient leur demande après la naissance de l'enfant. De telles demandes ne seront pas acceptées. L'on acceptera les demandes de ces enfants qui ont été dédiés avant leur naissance. Voilà le principe directeur du département Okfenau. Il y a aussi des personnes qui font ces demandes pour dédier leurs enfants, mais dans cette même lettre, ces personnes écrivent d'autres choses concernant d'autres sujets. Puisque c'est un département spécifique qui doit répondre à leurs lettres concernant leurs demandes de Okfenau, et qu'un autre département va répondre aux autres faits concernant leurs lettres, c'est pour cette raison que les parents qui font ces demandes doivent le faire séparément. S'ils veulent mentionner d'autres choses dans leur lettre, ils doivent mentionner cela ailleurs. La demande concernant leur enfant Okfenau doit être faite séparément. Et ensuite, ce sont les parents en personne qui doivent faire ces demandes. L'on n'acceptera pas des demandes de la part de leurs proches. C'est aux parents de faire ces demandes, car ce sont eux qui vont s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Dans certains pays, en Afrique, par exemple, l'on ne suit pas ces directives à la lettre. Dans leur registre, ils écrivent qu'un enfant est Okfenau et cet enfant est considéré comme tel. Tant que les parents n'ont pas reçu l'aval du centre, aucun enfant ne sera considéré comme Okfenau. Et après leur naissance, il est impossible de les considérer comme Okfenau. Quant aux enfants qui ont été adoptés, eh bien, avant la naissance de ces enfants, les parents biologiques doivent nous informer que ces enfants seront Okfenau. En tout cas, sur le formulaire, on va écrire les noms des parents biologiques, même si vous êtes en train de vous occuper d'un enfant Okfenau. Après la naissance de l'enfant, les parents doivent inscrire l'enfant et demander le numéro de référence. Dans certains cas, les parents n'inscrivent pas cet enfant après sa naissance et en dépit des rappels, ils ne le font pas. Et plusieurs années après, ils disent qu'on n'a pas des données concernant nos enfants. En tout cas, ce sont les parents qui ont la responsabilité d'inscrire leur enfant après sa naissance et de demander le numéro. Arrivé à l'âge de 15 ans, les secrétaires Wakfenau doivent leur demander de renouveler leur serment. Et maintenant, j'ai donné la permission de le faire aussi après leurs études. Il est maintenant très important de mettre à jour toutes ces données. Et sans cela, l'on ne pourra pas faire de plan à long terme. Et l'on ne saura pas combien de personnes nous aurons besoin dans tel ou tel domaine. Si on n'a pas les données nécessaires, l'on ne pourra pas faire ces plans. Si un enfant naît handicapé, cet enfant ne pourra pas faire partie du plan Wakfenau. Ce sera là une double tristesse pour les parents. Et nous vont prier pour qu'Allah leur accorde d'autres enfants. Mais en tout cas, cet enfant ne sera pas considéré pour le plan Wakfenau. Et si les parents d'un enfant Wakfenau ont été excommunié, cet enfant ne fera plus partie du plan Wakfenau. Tout cela parce que le parent qui a été excommunié n'a pas pu se maintenir au niveau requis et respecter la Nizam et Jamaat et de respecter la communauté. De tels parents ne pourront pas faire la tarbiya de leurs enfants. Les secrétaires Wakfenau doivent faire en sorte que si l'on a su qu'un parent a été excommunié par la communauté, ils doivent informer le centre. Cette tâche incombe au secrétaire Wakfenau. J'ai déjà dit que ceux qui veulent étudier à l'université doivent demander la permission préalablement. Et quant à ceux qui ont complété leurs études, quant à ceux qui ont entériné leur waqf, ils doivent de temps en temps informer le centre concernant leur travail. Dans la plupart des cas, j'ai donné la permission à ces jeunes de travailler et que la Jamaat va les appeler lorsque le besoin va se faire entendre. Mais en tout cas, ils doivent informer la communauté tous les ans. Quant à ceux qui n'ont pas fait des études supérieures, quant à ceux qui ont suivi d'autres formations, ils doivent eux aussi, après avoir complété leur formation, informer le centre. Qu'Allah fasse que tous ces Wakfenau, jeunes hommes et jeunes filles, soient des personnes avantageuses pour la communauté. Qu'Allah nous donne aussi la possibilité de faire la tarbiya de ces jeunes qui sont les amanas du peuple et de la communauté. Que nous puissions aider ces personnes pour qu'elles soient avantageuses à la communauté.